La vie de nos communes, mettre en lumière les différentes communes de CCA, Concarneau, Cornouailles Agglomération, leurs particularités, leurs habitants, leurs événements et initiatives locales. Une émission mensuelle sur Radio Harmonie Cornouailles, animée par Nadine Poadi.
Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre aujourd'hui sur Radio Harmonie Cornouailles. J'ai le plaisir d'accueillir un invité spécial, Michel Lussoirne, maire de Rospordun. Rospordun, une ville dynamique, ancrée dans une riche histoire bretonne. Nous allons aujourd'hui échanger sur l'histoire, le patrimoine et puis aussi discuter des initiatives en cours, la vision pour l'avenir de la commune. Et peut-être comme dans plusieurs communes de notre pays, Rospordun fait face à de nombreux défis et projets qui peuvent impacter le quotidien de ses habitants. Monsieur le maire, bonjour et merci de m'accueillir dans vos bureaux.
Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs.
Avant de parler de Rospordun, je voudrais préciser que vous êtes non seulement le maire de la commune de Rospordun, vous êtes également vice-président de l'agglomération de CCA à l'économie et au tourisme. Vous êtes également conseiller départemental du canton de Concarneau. Alors, si vous me le permettez, je vais présenter très brièvement votre commune. Rospordun, qui est donc une charmante commune située dans le département du Finistère, en Bretagne, et connue comme la capitale des étangs. Elle est donc entourée de magnifiques plans d'eau qui offrent des paysages pittoresque et un cadre de vie agréable. Rospordun bénéficie également d'un riche patrimoine naturel et historique avec des bâtiments emblématiques comme l'église Notre-Dame de Rospordun ou encore d'autres vestiges de son ancienne voie ferrée. Cette petite ville bretonne d'environ 7000 habitants
Presque
8000 habitants est donc également bien situé à proximité de Concarneau et de Quimper et bénéficie d'une position idéale pour les échanges économiques et culturels. C'est un lieu où la tradition et la modernité se rencontrent avec une forte identité locale, un tissu associatif dynamique et de nombreux projets en faveur du développement durable et de la qualité de vie. Monsieur le maire Michel Lussoirne, quelles sont les principales caractéristiques qui définissent votre commune, Rospordun ?
Alors c'est vrai que Rospordun, ce que vous avez dit est assez vrai, évidemment, je ne vais pas dire le contraire. On a deux particularités, je crois. Il y en a une qui peut paraître de l'anecdote, mais c'est qu'en réalité, nous sommes deux communes en une, puisque nous avons un statut de fusion-association avec l'ancienne commune de Kernevel, qui aujourd'hui est une commune associée. Donc grosso modo, pour schématiser, on va dire, c'est 5500 habitants à Rospordun et le reste à Kernevel, à peu près à 4-5 km, même si les frontières de l'ancienne commune de Kernevel commencent dès qu'on franchit les étangs. Donc deux communes qui se sont mariées en 1974. C'est pas une fusion complète, c'est un régime de fusion-association qui va ressembler un petit peu, toutes choses égales par ailleurs, au statut des arrondissements qu'on peut trouver à Paris, non Marseille. Donc voilà, c'est une spécificité. Il y a peut-être 600, 700 communes en France qui fonctionnent comme cela, on en fait partie. Donc ça, c'est vrai que vis-à-vis de l'extérieur, on apparaît un petit peu comme assez curieux de ce point de vue-là, mais ça fonctionne bien. On arrive à bien fonctionner, donc ça c'est un aspect anecdotique, mais néanmoins important quand on est élu, parce qu'on doit respecter les identités et les histoires des deux communes historiques. Et l'autre aspect, c'est que je pense que Rospordun, par sa taille, par son histoire, ce que vous avez dit, la présence du ferroviaire notamment, a fait en sorte que un certain nombre d'emplois, d'industries et de services publics ou privés se sont développés, ce qui fait que pour une ville de notre taille, entre 7500 et 8000 habitants, on a quand même énormément de missions, de fonctions dans notre territoire qui vont plus la rapprocher d'une ville de 13-15 000 habitants. Un petit peu par les missions que nous exerçons, à part l'hôpital et le lycée, on a quasiment tout. Ce qui fait qu'on, voilà, je dis souvent que je me compare un petit peu à Quimperlé, qui a d'autres atouts, qui est peut-être plus belle que Rospordun dans son patrimoine historique, mais qui par sa taille d'habitants est plutôt à 13 000 habitants, mais qui a des fonctions aussi assez importantes. Et à part le lycée, comme je vous dis, et l'hôpital qu'on va trouver à Concarneau, on a énormément de services, ce qui fait que ça nous oblige aussi à être attentifs à garder ces services et à les développer. Pour le reste, vous avez tout dit.
Parlant donc des services disponibles donc à Rospordun, au niveau du transport, c'est à Rospordun qu'on a la gare de TGV.
Tout à fait. Donc c'est une longue histoire puisque la gare de Rospornin, elle arrive sur le territoire avant les autres, avant Quimper, avant Concarneau. Concarneau n'en a plus, Quimper en a toujours. Mais historiquement, nous étions un nœud ferroviaire puisqu'il y a des voies ferrées qui n'existent plus. La voie ferrée qui menait à Carhaix, qui est devenue une voie verte. Et nous avions aussi une ligne de voie ferrée qui traversait le Finistère pour aller à Pouescat. Ce qui fait que Rospornin a toujours été un nœud ferroviaire depuis les années 1860, depuis Napoléon III. Hein. Et avec une conséquence, c'est que ce petit village, il y avait peut-être 1000 habitants à l'époque, a multiplié sa population et sa surface, puisqu'on s'est agrandi en fusionnant avec des voisins, tout simplement parce qu'on ne pouvait plus se développer chez nous, parce que des industries, des emplois, des services se développaient du fait de la gare. Et donc c'est un vrai combat pour la garder. Il y a eu des combats que mes prédécesseurs ont menés, parce qu'il y a eu des projets de fermeture de gare. Et aujourd'hui, la gare n'est pas menacée en tant que telle, mais c'est l'offre de services, que soit le TGV ou le TER, sur laquelle nous sommes tous très attentifs au niveau de la commune et plus généralement au niveau de l'agglomération et des communes voisines.
Alors, est-ce qu'il y a des initiatives pour encourager le développement économique, local? Je sais que le transport fait partie de ces projets. Et vous êtes également en charge de l'économie en tant que vice-président de CCA.
Oui, moi j'étais élu conseiller général du canton de Rospornin en 2014, lorsque nous avons une fermeture de notre dernière conserverie, Boutet-Nicolas. On a perdu à peu près 300 emplois, 150 CDI et autant d'emplois saisonniers intérimaires. Donc ça a été un coup très dur pour la commune qui faisait suite à la fermeture de nombreuses usines dans les années 80. Nous avions deux usines de chaussures, deux autres conserveries, etc., des salaisons. En l'espace d'une trentaine d'années, on a perdu beaucoup d'industries. Il nous en reste des belles hein, encore, mais c'est pas comparable à ce qu'on a connu il y a 30-40 ans. Et c'est resté un traumatisme assez fort pour la population d'une ville qui avait cette tradition industrielle et ouvrière, qui était aussi lié à l'agroalimentaire et donc qui irriguait tout un bassin agricole dans les communes voisines. Tout cela a été quand même profondément bouleversé par ces fermetures. Et l'objectif aujourd'hui, c'est bien aussi de réindustrialiser la commune pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne peut pas être une commune dortoir pour les communes plus grandes du territoire. On doit aussi avoir un secteur productif et pas simplement être une commune résidentielle. Et aussi parce que je suis intimement convaincu, alors l'industrie sera plus la même qu'il y a 30 ans, on fait des choses beaucoup plus écologiques, beaucoup plus durables, et il faut que ça aille dans ce sens, sur tous les aspects de la vie quotidienne, mais c'est aussi permettre aux gens de vivre et travailler au pays, même si on a des transports, c'est pas de les obliger à prendre tous les jours la voiture pour aller à Quimper, Concarneau ou Lorient. Donc ça c'est un sujet aussi important, et bien évidemment, à côté de cela, on a énormément de friches industrielles liées à ce passé. Donc il faut leur donner un avenir, et notamment une partie de ces friches, pas toutes, parce que c'est pas possible partout, c'est de les reconvertir pour de l'activité artisanale, industrielle. L'objectif étant sans doute de ne plus faire comme dans le passé. Nous étions dépendants de quelques entreprises qui comptaient des centaines d'emplois. Moi, je préfère aujourd'hui avoir 10 entreprises de 10 salariés qu'en avoir 300-200, parce que le territoire est plus fort. Donc c'est un petit peu ce quoi je m'efforce de travailler, avec l'agglomération qui aussi sait bien que on a un enjeu industriel et économique à Rospornin. Donc il faut qu'on aille vers cet objectif. Je m'efforce de le faire depuis des années, mais de le concilier avec d'autres objectifs comme le cadre de vie, l'environnement. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles j'essaye de travailler.
Alors, et vous avez évoqué l'environnement. Quels sont les principaux atouts naturels de la commune de Rospornin?
Eh bien, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est les étangs, avec tout le périmètre à côté de randonnées vers la voie verte et d'autres chemins ruraux qui existent. Donc ça, aujourd'hui, évidemment, elles existent, mais c'est de les protéger, de les revaloriser. C'est pour ça que nous avons lancé, avec différents partenaires, dont Bretagne Vivante, ce qu'on appelle un atlas de la biodiversité communale. Connaître ce que nous avons de manière précise pour mieux le préserver et peut-être mieux le développer. Donc ça, c'est un sujet important. Et à côté de ça, pour faire le lien avec le sujet des friches, l'usine Boutet-Nicolas a été fermée en 2014. Il se trouve qu'elle était construite historiquement sur un bout de marais, d'étang, il y a déjà très longtemps, et que donc le site sur lequel elle a été établie n'est plus constructible. C'est un site inondable, sur à peu près, le site sur lequel on travaille, c'est 6 hectares, en plein cœur de ville. Et comme ce ne sera pas reconstructible, l'objectif c'est de redonner à la nature ses droits sur ce site. On passe d'une friche industrielle et on veut revenir... pas à l'état antérieur, on ne pourra pas, Mais en tout cas, recréer un espace naturel, un poumon vert en plein cœur de ville, c'est un gros dossier que nous avons commencé. On a détruit l'usine, maintenant c'est de retravailler pour voir comment on va mettre tel ou tel type d'essence de plantes, redonner le ruisseau qui passe sur ce site, le remettre à l'air libre, etc. Et faire en sorte aussi que le cadre de vie des gens s'améliore. Donc ce sont des enjeux forts au niveau de la commune et qui sont assez inédits. Une friche industrielle reconvertie en site naturel sur 6 hectares, il n'y en a pas beaucoup en France.
Très beau projet écologique. Pour ceux qui se joignent à nous, je suis avec Michel Loussoirne. Il est le maire de la commune de Rospordan, vice-président de CCA à l'économie et au tourisme. Il est également conseiller départemental du canton de Concarneau. Mais dans cette émission, nous parlons de la commune donc de Rospordan. Nous avons évoqué ici l'économie, le développement durable, donc l'environnement. Abordons maintenant le sujet de la culture et des événements. Quels sont les événements culturels ou festifs les plus importants, si j'ose dire, de l'année à Rospordan ?
Alors, la particularité que nous avons à Rospordan, c'est que nous avons un centre culturel depuis 1992, avec donc une programmation culturelle quasiment toute l'année sur des spectacles d'art vivant, que ce soit des spectacles musicaux, du théâtre, voilà. Il y a des enseignements artistiques et culturels, danse, musique, etc. Et nous avons aussi une médiathèque communale qui sont tous dans le même bâtiment, l'objectif étant bien de développer ça. Ça, c'est des activités qui sont faites en régie municipale, auxquelles nous venons d'ajouter depuis quelques semaines ce qu'on appelle une microfolie, qui est un dispositif qui est porté par la Villette à Paris, et quelques villes en France, dont la nôtre, ont pu en bénéficier, parce que nous avons le statut, un label qui s'appelle Petite Ville de Demain. Et donc c'est une espèce de musée numérique qui permet d'avoir accès aux collections des plus grands musées français, mais pas que des collections numériques, on peut aussi voir des documentaires, des films, des formations, des jeux vidéo, enfin c'est un dispositif qu'on est en train de tester, qui se développe dans pas mal de communes de France. L'agglomération aussi le développe un petit peu dans ses médiathèques. Donc l'objectif étant effectivement aussi d'apporter la culture au plus près des gens. Ça, ce sont des initiatives publiques. Et à côté de ça, on a évidemment un riche secteur associatif. Je pense à tout ce qui se passe à Carnevel avec le comité des fêtes, par exemple, le festival Musique Soul. On a des acteurs privés comme le château de Garmini, qui a été réhabilité par un collectif d'artistes qui a mené un festival ce week-end. On a d'autres associations à Rospordan qui, pendant la saison estivale, l'été sur la place, la nuit des étangs, enfin, on a énormément d'activités qui sont portées par les associations. Le but étant finalement d'être assez complémentaire, c'est de pas se marcher dessus et d'essayer d'offrir à la population du loisir et aussi de la culture sur les communes. Donc c'est un travail qui se passe bien, même si on pourrait sans doute encore améliorer les choses et que on va s'efforcer à le faire.
On voit que les associations et les clubs sont vraiment actifs, hein, donc dans votre commune. Quels sont, on peut dire, les principaux défis auxquels la commune de Rospordan est confrontée actuellement?
Alors je dirais que, outre les défis que j'ai évoqués de requalification des friches industrielles, qui est assez important, qui est très long, très difficile en raison des pollutions, des contraintes foncières, du coût financier qui n'est pas neutre. Ça, c'est un enjeu sur lequel, j'ai envie de dire quasiment depuis que je suis élu, j'ai toujours connu ce défi-là. Ça avance, enfin. Au bout d'un certain nombre d'années, ça peut enfin évoluer après moult combats. On a des défis qui sont pas propres à la commune. Celui-là l'est, mais il y a la question du logement, comme partout ailleurs. La pression qui existait beaucoup dans les stations touristiques du littoral, on la retrouve aussi chez nous. Donc ça, c'est un enjeu. Pouvoir permettre aux gens du pays de ne pas devoir partir ailleurs et de pouvoir se loger dans la commune où ils ont envie de vivre. Ça, c'est pas toujours facile. Les gens veulent vivre à un endroit, ils ne peuvent pas toujours. Donc nous, on s'efforce d'y répondre. La question économique, je l'ai déjà évoquée, mais ça fait partie d'un des enjeux. Et assez récemment, puisque c'est quand même depuis que je suis maire qu'on travaille sur ces sujets-là, c'est la question effectivement de l'environnement. J'ai évoqué l'atlas de la biodiversité, j'ai évoqué la renaturation. On sait qu'à notre échelle communale, on ne pourra pas seul endiguer le réchauffement climatique. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est se préparer. C'est préparer la ville, peut-être demain, à une hausse des températures globales. C'est la renaturation de certains sites industriels abandonnés. Mais ce n'est pas que cela. C'est aussi ce qu'on a développé depuis 2020, la mise en place d'un plan arbre c'est de replanter des essences d'arbres sur différents sites qui appartiennent à la ville, des espaces verts, des terrains, autres. Donc ça, c'est un vrai sujet qui prend du temps, mais qu'on a commencé à faire. L'idée étant finalement d'être vraiment dans le développement durable, concilier l'économie, le social et l'environnemental. Donc ça, c'est un travail, parce qu'il faut toujours trouver un point d'équilibre et ne pas se tromper en lâchant la proie pour l'ombre sur l'un ou l'autre des sujets. Donc c'est pas des enjeux peut-être si différents des autres communes, mais chez nous, ils prennent une dimension particulière parce que, au regard des enjeux de la commune, notamment la question des friches, c'est pas neutre, du réemploi des matériaux, de redonner du travail à des gens qui ont dû s'exiler parce qu'ils n'en trouvaient plus dans la commune. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Et je pense aussi, c'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que comme on est une commune de 7 000-8 000 habitants, avec un revenu des habitants qui reste assez modeste, on a un vrai enjeu financier pour mener tous ces projets qui sont plutôt ceux de la taille d'une ville de 15 000 habitants que d'une ville de 8 000, ce qui n'est pas toujours simple financièrement, alors qu'on peut pas non plus pressuriser les gens fiscalement. On n'a pas le même niveau de revenu que dans certaines communes de l'agglomération ou d'ailleurs, où on a des gens qui ont un revenu plus aisé. Ici, c'est quand même une population qui a une tradition ouvrière et il faut en tenir compte. Donc des fois, on est obligé de faire des choix budgétaires qui sont pas toujours agréables. On a fait le choix de pas augmenter, nous, les taux de fiscalité pour ne pas pénaliser les habitants. Mais la contrepartie aussi, c'est que parfois, il y a des projets qu'on a dû décaler ou suspendre parce qu'on avait des urgences financières qui nous n'ont pas permis de tout faire comme on le voudrait. Donc ça, c'est quand même un défi. Et je pense que Rospordin, là-dessus, on est peut-être un peu plus dans ce défi que d'autres communes qui ont peut-être moins cette problématique, qui ont moins d'investissements à réaliser et du coup, qui ont peut-être moins de besoins financiers.
Vous avez évoqué de nombreux projets et j'imagine que pour ce qui concerne le développement durable, il faut l'implication de tout le monde et des habitants. Est-ce que vous organisez par exemple des rencontres, des réunions avec les habitants pour évoquer ces sujets et les faire participer?
Oui, alors on a une méthode pour le faire. Hein. D'abord, il y a la méthode un peu généraliste. On invite les gens à venir. On le fait là sur l'Atlas de la biodiversité avec notre bureau d'études et Bretagne Vivante. Il y a eu plusieurs temps d'animation, des balades, des ateliers participatifs, des stands sur des manifestations culturelles où les gens peuvent venir directement discuter avec les naturalistes pour exprimer leurs attentes ou leurs propres constats qu'ils ont vus chez eux, dans leur terrain, etc. Donc ça se fait. C'est des temps pas vraiment institutionnalisés, c'est plus des temps informels où les gens viennent. Ça fait partie d'une méthode peut-être un peu moins officielle, quoi. Il faut que les gens puissent se sentir libres. Donc c'est comme ça qu'on l'a fait sur cette méthode-là. Et évidemment, nous allons bientôt entrer dans le vif du sujet sur la question de la renaturation de l'ancienne usine Boutet-Nicolas. On a un bureau d'études, il y a des contraintes techniques très fortes, il faut des analyses scientifiques. Mais il faut aussi que les gens puissent s'exprimer sur ce qu'ils attendent et puis aussi sur ce qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on peut aussi leur expliquer qu'il y a telle ou telle contrainte qui nous empêche de faire peut-être quelque chose qu'eux auraient eu envie. Donc ça, il faut qu'on puisse leur expliquer, dialoguer. Donc ça, on va le faire. On l'a fait sur d'autres thématiques dans le passé, mais on va le faire là, je pense, j'espère, dès l'automne. Donc on aura des temps d'échange sur ces sujets. C'est vrai qu'on a été un peu perturbés, comme beaucoup de communes, par la période Covid, qui a un peu marqué un coup d'arrêt de ce dialogue avec les habitants. Là, maintenant que les projets avancent, on va remettre tout ça en route.
Michel Lussoirne, donc maire de Rospordin. Donc pour terminer, on va parler de vous-même, votre parcours personnel. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre parcours et ce qui vous a conduit à devenir maire?
Écoutez, moi je suis natif et j'ai grandi à Rospordin. Mon père était ouvrier, ma mère était infirmière. Je suis dans un milieu de classe moyenne, on va dire. Et j'ai payé une grande partie de mes études, comme beaucoup de jeunes de ma génération, je vais avoir 44 ans, en travaillant dans les emplois des usines de Rospordin. Boutet-Nicolas, j'ai fait les 3 usines avant qu'elles ferment. Donc j'ai toujours eu cet attachement à cette histoire de ma commune. Mon grand-père était agriculteur. Et j'ai vu un certain nombre de choses qui ont marqué un peu le déclin de notre commune, qui ne m'ont pas vraiment plu. J'aurais pu faire autre chose, hein. Mon métier c'est avocat, j'ai fait des études de droit, j'ai fait un institut d'études politiques, j'avais commencé ma vie professionnelle ailleurs qu'à Rospordin, vous vous doutez bien. Avec les diplômes que j'avais, c'était pas forcément évident de trouver un travail ici. Et un jour j'ai fait le choix de revenir pour m'investir pour ma commune. Parce que voilà, je n'acceptais pas de la voir subir ces fermetures d'usines, de voir toutes ces choses assez traumatisantes pour les habitants, y compris pour nos familles. Et donc voilà, j'ai quand l'opportunité s'est présentée de me présenter à des élections, plusieurs personnes m'ont conseillé d'y aller, et donc j'ai fait un choix qui a pu être un sacrifice personnel sur d'autres aspects professionnels, mais j'ai pas de regrets parce que au moins j'ai le sentiment de faire mon devoir.
Et qu'est-ce qui vous passionne dans votre travail en tant que maire ?
Moi, c'est l'attachement au territoire. C'est que j'aurais pu faire de la politique ailleurs si ça avait été une ambition simplement personnelle. J'ai vécu à Nantes, à Toulouse, à Rennes. J'aurais sans doute eu d'autres pistes professionnelles et politiques si tel avait été le cas. Ça n'a pas été mon choix. Mon choix, c'est vraiment l'attachement à ce territoire. Et ma satisfaction, ce sera de voir des projets qui vont changer la ville, aboutir, qui vont redonner confiance aux habitants dans l'avenir de leur ville, et fierté aussi, parce que on était un petit peu devenu, avec la fermeture de toutes ces usines, quand j'ai commencé à être élu il y a une quinzaine d'années au conseil municipal, j'entendais tout le monde me dire tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a perdu, etc. Il y avait ce sentiment de perte de confiance, de déclin, et moi je serais satisfait si demain j'entends la chose inverse, que les gens retrouvent la fierté de leur commune et qui croient dans l'avenir de leur commune. J'espère modestement y participer, mais il n'y a pas que moi, c'est aussi les habitants eux-mêmes qui peuvent influer ce message, cet état d'esprit. Donc c'est ce que j'espère qu'on arrivera à faire, et si on arrive, bah, j'aurai le sentiment d'avoir réussi mon job. Voilà.
Et si vous aviez quelques conseils à donner à quelqu'un qui nous écoute et qui souhaite s'engager dans la vie politique locale, ce serait lequel ? Quel conseil ?
Alors, c'est vrai que la vie politique locale, elle n'est pas simple. Les choses ont changé depuis 2020. On sent un climat de tension dans la société qui était moindre avant. On a un millefeuille administratif aussi qui est parfois très lourd entre la commune et l'intercommunalité, l'agglomération, avec beaucoup de réunions, beaucoup de temps, notamment des réunions le soir qui empiètent sur la vie de famille ou professionnelle. Donc, je sais que c'est pas toujours simple pour les actifs. Néanmoins, j'ai souvent parfois des jeunes de la commune qui viennent me voir, qui font des études qui peuvent ressembler aux miennes et qui m'interrogent un petit peu. Et je leur dis de toute façon une chose qui est essentielle, c'est que quoi qu'ils décident, après c'est un choix personnel, hein, on décide de sacrifier de son temps personnel pour s'engager pour la collectivité. Et c'est pas pour devenir millionnaire, hein, je vous rassure, parce que c'est pas avec ce qu'on gagne qu'on peut avoir d'autres opportunités quand on a fait des études que celle d'être maire d'une petite commune. Mais le principal conseil que je leur donne toujours, c'est de garder une vie professionnelle, de tout faire pour avoir une vie professionnelle épanouie, de faire leurs preuves dans la vie professionnelle, parce que mandat, c'est pas un métier. Peut-être que je me représenterai ou pas, je n'en sais rien encore. Je serai peut-être foutu dehors par les électeurs. Bah, moi, ma sérénité et ma liberté d'action comme élu, c'est que je sais que le jour où je ne suis plus élu, je retrouverai ma robe d'avocat sans aucune difficulté. Et ça donne une très grande liberté de choix, et on en reste toujours fidèle à sa conscience, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que je dis toujours aux jeunes qui viennent me voir, c'est faites de votre vie professionnelle, installez-vous, devenez indépendant. Et si vous voulez être élu, un élu efficace, il faut être indépendant. Et pour être indépendant, c'est son métier.
On arrive presque au terme de notre entretien. Peut-être un dernier message aux habitants de Rosfordin.
Bah écoutez, je pense que je l'ai dit un petit peu avant, je pense que c'est ça, c'est d'avoir confiance. C'est vrai que parfois on a le sentiment peut-être, et moi le premier, que certains projets n'avancent pas assez vite, je peux pas dire le contraire, mais on a vécu des temps quand même très compliqués, hein, la hausse de l'énergie, l'inflation, etc., le Covid, donc ça a retardé quand même beaucoup de choses. Mais je leur dis aux habitants, indépendamment d'avoir confiance en moi, surtout d'avoir confiance dans leur ville, et aussi d'œuvrer chacun à sa place, pour redonner cette confiance et redonner un avenir à la ville. Et je pense que tous ensemble, si on a confiance, on arrivera à redonner notre lustre d'antan à notre ville, qui n'est pas très loin de le retrouver.
Merci beaucoup. Michel Lussouarne, maire de Rosfordin. Vous êtes également vice-président de CCA à l'économie et au tourisme, conseiller départemental du canton de Concarneau. Merci beaucoup pour cet échange très très enrichissant. Nous avons donc pu aborder de nombreux sujets importants pour Rosfordin, qu'il s'agisse des projets d'urbanisme, des initiatives écologiques ou des actions pour renforcer le lien social au sein de la commune. En tout cas, merci de m'avoir accueilli une fois encore dans votre commune.
Et merci à vous de m'avoir donné la parole. Merci à vous.
La vie de nos communes, mettre en lumière les différentes communes de CCA, Concarneau-Cornouaille Agglomération, leurs particularités, leurs habitants, leurs événements et initiatives locales. Une émission mensuelle sur Radio Harmonie Cornouaille, animée par Nadine Poadi.